en ce 16 avril, à Rencontre spirituelle. Mais chacun sait que c'est la fête de Saint-Joseph Benoît Labre, dont je vous ai déjà parlé. Cet homme qui est mort dans l'extrême pauvreté et que l'Église a reconnu en dépit de son caractère très hippie et très spécial, il est mort à Rome, ce Français. C'est aussi l'anniversaire du décès de quelqu'un d'autre qui est très spécial. J'ai hésité avant de vous raconter la vie de cette fillette de 9 ans, qui est morte en 1939 à Madrid. Elle est vénérable. On m'assure qu'elle sera vraisemblablement béatifiée, canonisée. Son nom, Marie Carmen González Valerio. Au microphone, Raymond Beaugrand-Champagne. Ça peut vous sembler curieux que je parle d'un enfant de cet âge-là. Mais vous savez, quand on a lu sa vie, on est bouleversé. Il n'y a pas de doute qu'un adolescent qui meurt martyr, ça... On a vu ça dans l'Église, ça peut être canonisé, un adolescent comme ça. Dès le début de l'Église, il y a Saint Tarcisius, dont on nous parlait beaucoup quand nous étions jeunes. Il y a Sainte Agnès aussi. Je suis allé au catacombe de Sainte Agnès cet été, c'est très beau. C'est à l'époque romaine. Mais en 1902, est décédé Sainte Maria Goretti. Et une sainteté comme celle-là est prouvée par le fait même que ces jeunes, il y a 2000 ans ou au XXe siècle, ont versé leur sang pour le Christ, puis il y en a bien d'autres. Il y en a d'autres qui sont bien peu connus, mais qui ont versé leur sang tant en Russie soviétique qu'au Vietnam, au Cambodge. Combien de jeunes catholiques ont été tués à cause de leur foi? Mais si l'enfant n'est pas martyr, peut-il être canonisé? On peut se poser la question. Parmi les jeunes de moins de 21 ans avant le code canonique qui a été publié en 1983, le premier saint canonisé appartient au temps moderne, c'est Saint Stanislas Kostka, nommé jésuite, mort à 18 ans. Et puis il y a la canonisation de Jeanne d'Arc, qui est plus récente. Oui, elle a été canonisée vers, si je me souviens bien, 1925. Et elle est morte, elle, à 19 ans, il y a bien des siècles. D'ailleurs, c'est à 19 ans aussi qu'est mort l'ouvrier italien Nunzio Sulpricio. Sulpricio, S-U-L-P-R-I-C-I-O, béatifié par Paul VI en 63 pendant le Concile, un ouvrier italien, oui. À ce petit groupe, on ne peut qu'ajouter qu'une seule personne, c'est l'adolescent de 14 ans qu'on connaît tous, Saint-Dominique Savio, et qui a été canonisé par Pie XII. J'ai plusieurs autres vies que Saint-Jean Bosco a écrites sur des jeunes saints. Je vous en raconterai quelques-unes un jour. C'est très, très intéressant. Des jeunes garçons qui sont morts à 13 ans. Est-ce qu'il y a de plus jeunes enfants encore? Bien, je vous ai déjà raconté le 22 janvier 96, donc il y a plus d'un an, l'histoire de Laura Vicuña. Ça a fait sensation, cette histoire. Les gens ont beaucoup, beaucoup aimé ça. Elle est morte à 12 ans. C'est en 1988 qu'elle a été béatifiée. On s'attend aussi à la béatification de deux autres petits-enfants, François et sa sœur, Jacinthe, qui ont été favorisés, n'est-ce pas, des visions de Fatima, qui sont morts à 10 ans, eux autres. Mais voici donc une petite Espagnole, c'est d'elle dont je voudrais vous parler, dont la cause de béatification est en étude, c'est sérieux, hein? Marie Carmen González Valerio. Encore plus jeune, elle n'avait en effet que 9 ans et 4 mois quand elle s'est, comme on dit dans le langage spirituel, quand elle s'est endormie pour l'éternité. Il semble bien qu'elle va être canonisée. Ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'un saint canonisé, c'est pas tant un héros qu'un élu de Dieu, un grand ami de Dieu. L'héroïsme, c'est nécessaire. Mais seulement en ce qui concerne cette amitié de Dieu. Cette amitié pour Dieu. Un saint, c'est une personne qui a été élue, dans un certain sens, par Dieu, et qui jouit de grâce, on s'en semble bien, très spéciale, exceptionnelle même, parfois, afin de parvenir à une amitié extraordinaire avec Dieu, amitié qu'il doit prouver par une fidélité héroïque, et beaucoup d'autres saints qui ne sont pas canonisés ont eu aussi une très grande amitié pour Dieu, sans atteindre des choses extraordinaires. Ils ne sont pas fait remarquer. C'est plein, il y en a des milliards, je crois bien, moi, personnellement. Des saints, il y en a dans nos familles, de nos voisins, dans nos villages, nos villes, qui sont morts, sont au ciel. Mais il est certain que pour pouvoir canoniser des enfants, ben il faut, comme chez les adultes, un minimum de base humaine. Alors, ces qualités humaines fondamentales, je peux vous assurer que Marie-Carmen les possédait. Son père s'appelait Julio, ou Julio si vous préférez, González Valerio, et sa mère, Doña Carmen Sáenz de Heredia, appartenaient tous les deux à la noblesse. Son père exerçait à cette époque la profession d'ingénieur. Ils ont eu 5 enfants. Marie-Carmen était la seconde. À 6 ans, elle fait sa première communion le 27 juin 1936. C'est avec raison que sa mère avait avancé la date de la première communion de sa fille. J'étais convaincu que l'Espagne, et notre famille en particulier, allait traverser une période très difficile, dit-elle. On voyait qu'une persécution religieuse se préparait. Je voulais que mon enfant fasse sa première communion avant. Et en effet, quelques 20 jours plus tard, le 17 juillet 1936, au Maroc, et le lendemain, dans la péninsule de l'Espagne, la guerre éclatait. La persécution contre l'Église, qui avait commencé quelques années plus tôt, devenait de plus en plus violente. Ça se traduisait par une volonté terrible et absolue d'anéantir tout ce qui était catholique. C'est les évêques espagnols qui déclaraient « Nous ne croyons pas qu'il y ait jamais eu dans l'histoire du christianisme une explosion semblable de haine, oui de haine, contre Jésus-Christ et la religion, manifestée sous tous les aspects de la pensée, de la volonté, de la passion, et ceci en quelques semaines. Les martyrs se comptent par milliers. » C'est ce qu'ils déclaraient, ces évêques. Or, le 15 août de la même année, 1936, le jour de l'Assomption, des miliciens communistes ont amené son père, le père de Marie-Carmen, à une checa. Une checa, c'est une prison où les détenus étaient soumis, c'est bien un jugement sommaire pendant la guerre d'Espagne. Alors, il l'avait pressenti, d'ailleurs, cet ingénieur. Il l'avait dit à sa femme, « Les enfants sont trop petits, ils ne comprennent pas, mais quand ils seront grands, dis-leur que leur père a lutté et a donné sa vie pour Dieu et pour l'Espagne, pour qu'on puisse les élever dans une Espagne catholique où le crucifix préside dans les écoles. » Vous savez, on avait, à cette époque, comme encore en Allemagne, dans certains pays, un grand désir que le crucifix préside dans les écoles catholiques. Ici, on a passablement laissé tomber ces choses-là. C'est un peu dommage, je pense. De toute façon, le soir à 21h, après son arrestation, il était déjà de retour, mais cependant, quelques jours plus tard, on l'a conduit de nouveau à la Checa, la prison de la rue Marquis de Riscal. C'est la rue même où il habitait avec sa famille. Et sa femme, alors, pouvait le voir un instant tous les jours en passant devant la grille. Mais le 29 août, toujours en 1936, du sous-sol où elle s'était réfugiée, elle a entendu crier d'un camion qui passait « Carmen, Carmen !» Et peu après, son mari était assassiné. Pourquoi l'a-t-on relâché la première fois? Peut-être, pensent certains, pour lui donner le temps de réfléchir à une offre qu'on lui aurait faite de rentrer dans l'armée républicaine. Il est possible aussi qu'il soit mort simplement parce qu'il était catholique, comme tant d'autres laïcs, sans compter les milliers de prêtres martyrs. Et s'il est difficile, évidemment, de démontrer que sa mort soit un martyr au sens rigoureux du terme, à ne regarder que l'intention de ses assassins. Quant à lui, ses propres intentions ne permettent pas d'en douter. C'est ce que comprenait sa fille Marie-Carmen, cet enfant, quand elle disait « Mon père est mort martyr, pauvre maman ». À la mort de son mari, donc, en 1936, Doña Carmen Sáenz de Heredia se trouve en très grand danger. Son sang noble, ses amitiés, sa famille... Tout ça, ça peut lui nuire. C'est pourquoi elle se réfugie à l'ambassade de Belgique. Sa tante, Sophie, s'occupe des 5 enfants. Et soudain, on apprend que les 5 enfants... Quelqu'un a trahi le pouvoir. Ces 5 enfants vont être envoyés en URSS, comme tant d'autres. pour être élevé, oui, ils faisaient ça dans le marxisme. Alors, leur mère, la mère de Marie-Carmen, mortellement angoissée, elle veut quitter l'ambassade. Mais l'ambassadeur accepte alors d'y admettre les enfants malgré le manque de place. C'est le 11 février 1937, fête de Notre-Dame de Lourdes, que tous s'y présentent. Alors, la petite Marie-Carmen, qui a à peine 6 ans, porte sa petite sœur, âgée de 9 mois. Et qui deviendra, je pense, carmélite. Quelques minutes seulement après leur départ, arrivait le camion des miliciens qui venaient les chercher, imaginez. Juste à temps, hein. Et le 31 mars de l'année suivante, l'ambassade réussit à organiser une évacuation, puis les réfugiés partent en camion pour Valencia, où ils prennent le bateau pour Marseille, et de là, ils passent à l'Espagne nationale pour s'installer à San Sebastián, la Saint-Sébastien. Alors, Marie-Carmen se distingue dès sa petite enfance par une pureté, là, une pureté étrange, pratiquée jusque dans les moindres détails. Elle avait 1000 délicatesses qui passent inaperçues aux enfants de son âge. C'est ainsi qu'à l'âge de 2 ans, vous allez peut-être rire, mais moi je trouve ça touchant parce que mon petit-fils est comme ça. C'est ainsi qu'à l'âge de 2 ans, elle ne se laisse pas déshabiller devant son frère, son aîné d'un an, qui est dans la pièce et ne s'occupe pas d'elle. Vous savez, le sentiment de la pudeur, c'est pas nécessairement une maladie. En été, elle souffrait tant à la plage qu'on devait la laisser jouer dans le jardin de la maison. Et tout petite, elle s'habillait seule, enfermée dans sa chambre, et elle disait « Un moment, grand-mère, j'ai fini de m'habiller. » Comme ça me fait penser à mon petit-fils, c'est pareil. Au sujet de la répugnance qu'elle éprouvait pour la plage, sa mère nous dit « C'est à ce moment que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait quelque chose d'exceptionnel dans la conduite de ma fille. Et en effet, cela ne pouvait s'expliquer que par la lumière très vive que Dieu lui avait donnée. Il lui faisait comprendre la grandeur et la fragilité de la vertu de pureté, dont on ne parle plus aujourd'hui. Mais à côté de la pureté, surtout la charité, si un pauvre sonnait à la porte et qu'elle ouvrait, mais cette petite fille lui donnait d'abord l'aumône de ses économies, puis lui disait « Maintenant, sonnez de nouveau pour que maman vous donne quelque chose. » Et comme elle savait que sa mère donnait son linge usagé aux pauvres, souvent elle disait que son chandail ou ses souliers à peine étrennés étaient usés pour qu'on les leur donne. Ces pauvres, elle ne les oubliera jamais. On va le voir d'ailleurs, même au milieu des terribles souffrances de sa dernière maladie. Et de son séjour à Saint-Sébastien, sa grand-mère nous raconte « Nous lui donnions de l'argent pour qu'elle s'achète des jouets ou d'autres choses, mais elle le transmettait à sa nourrice pour qu'elle offre des jouets à ses enfants en lui recommandant bien de ne rien dire à sa mère ni à moi. » Alors Marie-Carmen était une petite fille aussi très droite et qui avait beaucoup de caractère. Mais par contre, malgré son caractère, elle obéissait toujours du premier coup, dit sa mère. Toujours du premier coup. Ce qui est exceptionnel chez tous les enfants. Et quand on pense qu'elle avait tout ce caractère, c'est encore plus stupéfiant. Et quant à sa sincérité, sa grand-mère nous dit, « Je ne l'ai jamais surprise en train de mentir. Elle détestait le mensonge et ne voulait pas que je mente, écrit sa mère. » À ce propos, voici une anecdote. Les enfants allaient souvent jouer accompagnés d'une institutrice, et un jour, Marie-Carmen demande à sa mère si elle ne viendrait pas les chercher. Et celle-ci l'assura qu'elle viendrait les reprendre tout en sachant qu'elle ne le pouvait pas. Donc un mensonge, elle ne voulait pas lui faire de peine et la voir sortir toute triste. Alors au retour, Marie-Carmen demande à sa mère, « Quand tu m'as dit que tu viendrais, tu savais que tu ne viendrais pas ?» Alors sa mère lui dit, « Écoute, oui, je le savais, mais je ne voulais pas que tu sortes toute triste. » Alors la petite Marie-Carmen, qui est vraiment une enfant étonnante, elle dit, « Eh bien, je suis encore plus triste si tu mens, maman. Dis-moi toujours la vérité, et je suis contente, maman, mais ne mens pas. » Et nous verrons la suite tout à l'heure. L'Eucharistie, pour Marie-Carmen, cette petite fille toute petite, toute jeune, qui vient de faire sa première communion, c'était le moteur de sa sainteté. C'est Saint Pie X qui avait prophétisé d'une certaine façon. Je me souviens, on nous répétait ça quand j'étais jeune. Et grâce à la communion, beaucoup d'enfants parviendront à la sainteté. Et je crois qu'il a raison. Autrement, à quoi ça sert de communier? La communion, c'est le Christ lui-même, c'est Jésus. Il ne ferait rien? L'Esprit Saint n'agirait pas sur l'âme des enfants? Voyons. La mère de Marie-Carmen nous dit, elle a commencé à se sanctifier réellement après sa première communion. Avant, on le sait, c'était déjà une petite fille spirituellement différente des autres, mais le changement s'est accentué à partir de sa première communion. Le chant de communion, je vais y revenir plus tard, le chant de communion de ce jour, écrit d'ailleurs par un jésuite, restera gravé dans son esprit, va lui donner des forces jusqu'à sa mort. À partir de cette date, elle commence à aller à la messe et à y communier à peu près tous les jours. On faisait ça, moi je faisais ça, mes frères aussi, c'était comme ça dans ce temps-là. Aujourd'hui, ça peut sembler étrange pour les jeunes qui m'écoutent, qui ont 19, 20, 25 ans, là. Étant interne au collège de Zala, Elle se levait spontanément de bonne heure. Elle était pensionnaire. Elle se levait de bonne heure pour aller à la messe des religieuses, et c'est pendant une de ses communions qu'elle va faire son offrande complète à Dieu. En somme, la prophétie de Saint Pie X se réalisait. Une fois, comme elle voyait sa mère accablée par ses préoccupations domestiques, elle lui dit « Maman, tu t'occupes trop des choses de la terre. » Ça ressemble à Jésus qui dit à Sainte Marthe, « Marthe, Marthe, n'est-ce pas, ta sœur a choisi la meilleure part. » Une autre fois, comme elle bavardait avec cet ami de la famille qui avait été carmélite à Lisieux et qui le serait plus tard à Tanger, sa grand-mère les interrompt. « Mais de quoi parlez-vous tant ?» La réponse est absolument étonnante. « Grand-mère, nous parlons mystique. » À s'intéresser à la mystique. Toute jeune, toute jeune. Ainsi, se montrait-elle encore au collège de Zala, où elle était pensionnaire, quand elle était en retraite avec ses compagnes. À la fin, comme les enfants jouaient dans le jardin, le prêtre qui a dirigé la retraite demande à l'une des religieuses, « Dites-moi, ma mère, il y a ici une petite fille brune, là, de 10 ans environ, qui s'appelle Carmencita. » Marie-Carmen, quoi, Carmencita. « Ah, vous voulez parler de celle-ci, là, qui traverse le jardin en courant ?» Il dit « Oui. »« Eh bien, ma mère, cet enfant est plein de l'Esprit-Saint. » Il l'avait remarqué. On peut remarquer aussi cette phrase et le moment où elle est prononcée. Elle fut dite bien avant sa dernière maladie. On voit donc que Marie-Carmen s'est sanctifiée seulement pendant cette épreuve douloureuse, disent certains, mais non, pas du tout. Elle était déjà en voie de sanctification bien avant. Elle était déjà remplie du don de l'Esprit-Saint, et voilà la sainteté. C'est ça, la sainteté. Marie-Carmen avait ses secrets. Par exemple, elle avait un cahier qu'elle avait intitulé « Actes ». Elle avait écrit par 3 fois sur la couverture et la dernière page « Personnel ». Et ce petit cahier, ainsi que son agenda, était placé dans une enveloppe fermée par plusieurs morceaux de papier collant, sur lesquels on lisait « Tout à fait personnel, tout à fait personnel, tout à fait personnel ». Et le tout était rangé dans son cartable. Alors, cartable qu'elle réclamait fréquemment pendant sa maladie, mais qu'on refusait providentiellement de lui donner parce que elle aurait probablement détruit ses papiers. Et de cette façon, à sa mort, l'enveloppe a été ouverte, les sceaux rompus, et on a pu lire son grand secret. Celui qui jette une lumière spéciale sur tous les actes de sa vie. En effet, entre autres choses, on lisait dans son agenda, « Je me suis livré à Dieu dans la paroisse du bon pasteur, 6 avril 1939. » La paroisse du bon pasteur, c'est celle de Saint-Sébastien. Que s'est-il passé ce jour-là, le jeudi 5 1939? Sa mère était à Madrid à ce moment-là. Elle venait d'être libérée pour remettre la maison en état, mais sa grand-mère en a gardé un parfait souvenir. Et Marie-Carmen lui avait demandé en entrant dans l'église, « Grand-mère, je me livre !» Et elle lui avait répondu, parce que sa grand-mère était très religieuse, « C'est cela, livre-toi !» Et elle raconte, « Je la suivais. » Et après la communion, et on aurait dit que les anges la portaient, elle se couvrit le visage de ses petites mains et resta un long moment agenouillée en action de grâce, si bien que je me suis dit, cette petite pourrait bien être une seconde petite Thérèse de Lisieux. Elle ajoute, à la sortie de l'église, elle m'a demandé, grand-mère, qu'est-ce que c'est se livrer? Et j'ai répondu, c'est se donner tout entière à Dieu et appartenir complètement à Dieu. après quoi elle ne m'a plus jamais parlé de ce don. C'était son secret qu'elle avait écrit dans ses actes. Certains ont cherché à préciser le sens de ce don. S'agit-il d'un don en général ou dans un but bien défini? Un don qu'on pourrait appeler nuptial ou bien le don d'une victime? Il est possible qu'il soit en rapport avec la mort de son père et le salut de ceux qui l'ont tué. Oui, c'est étonnant, hein? Comme Jésus sur la croix qui demandait pardon pour ceux qui le tuaient. De toute façon, il s'agit d'un point essentiel de son itinéraire spirituel. Il faut l'étudier. Dans son agenda, le 29 août, elle avait écrit « On a tué mon pauvre père ». Et dans l'une des dernières pages, c'est écrit « Vive l'Espagne, vive le Christ roi ». C'est le cri que poussaient les catholiques martyrs de la guerre, de cette guerre civile, au moment de mourir, et qu'elle attribuait aussi à son père. Alors Marie-Carmen, non seulement avait pardonné aux assassins de son père, mais leur salut était son plus grand souci. Les assassins, dans sa mentalité d'enfant, étaient incarnés en Azaña. Azaña, c'était le président de la République. Comme elle demandait à sa mère avec l'innocence de ses 6 ans, « Maman, Monsieur Azaña, ira-t-il au ciel? » Et je lui dis, raconte sa mère, que si elle se sacrifiait, priait pour lui, il serait sauvé. Bref, il n'est pas possible de préciser avec une certitude absolue pour quel motif. Elle a réalisé son offrande le 6 avril 1939, mais nous sommes sûrs du sens qu'elle va lui donner plus tard. Quand elle va tomber malade, pour son père et pour ceux qui l'ont tué. Et écoutez bien ça, il est important de voir qu'elle ne l'a pas fait comme quelqu'un qui offre ses souffrances imprévues, là, mais comme une personne qui a conscience du rapport qui existe entre ses souffrances offertes dans l'amour et leur cause spirituelle. Écoutez, c'est fantastique, un an plus tard, le 3 novembre 1940, ce monsieur Azaña, président de la République, meurt à Montauban. Mais d'après le témoignage écrit de Monseigneur Théas, c'est pas n'importe qui, l'évêque du diocèse, qui lui prêtait son assistance spirituelle à ce moment, Azaña, monsieur Azaña, malgré les amis qui l'entouraient, reçut, dit Monseigneur Théas, en toute lucidité, le sacrement de la pénitence, ainsi que l'extrême-onction et l'indulgence plénière, comme on parlait dans le temps, expirant doucement, ajoute Monseigneur Théas, dans l'amour de Dieu et l'espérance de le voir. Alors, c'est particulièrement important aussi de signaler que son indifférence dans la maladie là, était absolue. Son abandon se manifestait chez cette petite fille, c'est absolument extraordinaire, dans les moindres détails. Comme une religieuse un jour fermait les fenêtres de sa chambre en disant « Comme cette lumière doit te gêner, Marie-Carmen ?» Elle a répondu « Très bien, ma mère, que le bon Dieu vous le rende. » Mais une autre religieuse arrive et ouvre les fenêtres pour que ce soleil qui réveillerait un mort l'égaye. Elle répond, « Dieu vous le rende, ma mère, comme ça c'est très bien. » Et de même, si on lui demandait quel plat elle préférait, elle disait toujours, « Apportez-moi la même chose qu'aux autres, j'aime tout. » Elle n'avait pas de goût particulier, malgré son tout jeune âge, 9 ans. C'est qu'elle s'était offerte tout entière à l'amour de Dieu et à la volonté de Dieu. La volonté de Dieu qui était la sienne, finalement. Ce qui paraissait à l'origine maladie, là, sans importance, s'est aggravé. Hein. Le 27 mai, elle est transportée en voiture à Madrid. On lui fait d'urgence une trépanation du mastoïde, puis la trompectomie. Mais comme on voyait que la maladie allait être longue, au bout d'une semaine, on l'a ramenée chez elle. Et dès le début... J'ai compris que nous étions vaincus d'avance, avoue l'un des médecins. Mais les médecins ne renonceront pas à tenter tous les remèdes possibles, si douloureux qu'ils soient. Ils vont lui causer là un martyr inutile. Elle supportait plus de 20 piqûres de tout genre et de toute dimension, tous les jours. Tonie cardiaque, sulfamide, sérum, piqûres intraveineuses, toutes très douloureuses. On ne savait plus où faire les piqûres et les veines de ses mains devenaient de plus en plus introuvables. La septicémie empêchait la cicatrice de la trépanation de se fermer. Une double phlébite vint s'y ajouter. Des plaies gangreneuses se sont formées sur ses cuisses, et le simple contact des draps devint un supplice, et elle s'évanouissait quand on les changeait. Mais Il faut mettre un terme à la description de tant de souffrances. Je ne veux pas exagérer, je pourrais vous en raconter bien plus. Mais il suffit de citer Marie-Carmen elle-même, et on vient de lui couper quelques mèches pour faciliter les soins de l'oreille. Et elle commente, « De ses cheveux qu'on vient de me couper, jusqu'à l'ongle du petit doigt du pied, tout mon corps me fait mal. » Et en somme, pensez-y, elle répétait sans le savoir ce que le prophète Isaïe avait prédit de Jésus, de la plante des pieds, au sommet de la tête, il n'y a en lui rien de saint. Habituellement, il est question de saints, de vénérables, de bienheureux. Aujourd'hui, justement, c'est une jeune vénérable de 9 ans. Ça peut sembler étrange, mais si vous m'écoutez attentivement, vous verrez que ça n'est pas si étrange et que c'est très beau. C'est à la lecture que j'étais convaincu. Au départ, j'hésitais beaucoup. Ici, Raymond Beaugrand-Champagne. Donc, au milieu de ces souffrances, Marie Carmen González Valerio, je dis bien Marie, c'est M-A-R-I, hein, en espagnol. Alors, au milieu de ses souffrances, qui sont si peu proportionnées à son âge, Marie Carmen ne cesse pas d'aimer le bon Dieu, comme elle dit. C'est ça la sainteté, hein. La sainteté, ça dépend pas de la quantité de souffrance. Pour ça, je veux pas trop vous en parler. C'est pas non plus une espèce de concours sportif pour savoir qui a souffert davantage. Les pécheurs aussi souffrent beaucoup, mais ils souffrent inutilement. Leur amour, c'est comme éteint. La sainteté, c'est une réponse d'amour, justement, une vie de fidélité. Dans les petites choses comme dans les grandes, hein. Et Marie-Carmen a su le prouver à tout moment, quand elle joua la poupée et quand elle a dû accompagner Jésus jusqu'à la croix. Ce Jésus à qui elle s'était donnée. Sur son lit de souffrance, Marie-Carmen n'oublie pas les enfants pauvres, hein, je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est la marque d'un grand oubli de soi, d'une grande charité. Je pourrais vous raconter des faits extraordinaires. Son médecin, le docteur Blanco Soler, comme le compositeur Soler, S-O-L-E-R, a pu dire très justement, la capacité d'amour de cet enfant était si extraordinaire qu'elle débordait son petit corps. Et dans tous ses regards, ses gestes, ses manières, on voyait ce profond amour mystique que la petite gardait dans son cœur. C'est le médecin qui disait ça. En définitive, c'est en cela que réside la sainteté, dans la charité qui transforme la douleur en grâce. Je répète, hein, la sainteté réside dans la charité qui transforme la douleur en grâce. Au milieu de ces terribles souffrances, elle ne perdait pas la présence de Dieu. Parfois, quelqu'un lui apportait des livres pour enfants, afin de la distraire. Elle les recevait, toujours avec un sourire quand même, mais elle les laissait sur sa table de nuit, sans même les regarder, parce qu'un seul livre qu'elle utilisait pour prier ou méditer, c'était le paroissien bien connu, Mon Jésus. Elle était amoureuse de Dieu. Et la fin approchait. Et ce qui intéressait alors Marie-Carmen par-dessus tout, c'était de parler avec Dieu. Son infirmière a raconté des choses absolument merveilleuses. Elle dit de quelle façon elle se recueillait. Jamais personne ne la poussait à prier. C'était inné chez elle. Elle fermait ses petits yeux et était tellement absorbée que nous la laissions seule. Jamais elle n'a omis de faire ses prières. Un jour pourtant, où elle était très mal, nous craignons même de la voir vomir, la petite étant presque dans le coma, elle ne put s'en acquitter comme à l'ordinaire. Le jour de sa première communion, on revient en arrière, à 6 ans, on avait chanté dans la chapelle du collège un chant que je vous avais dit, écrit par un jésuite, qui l'avait impressionné. Le chant qui l'avait impressionné. Dans toutes les strophes de ce chant, seuls changent les premiers et le troisième vers. Mais je vous lis des extraits. Ô mon Jésus, que tu es bon. De tout mon cœur, je veux t'aimer toujours. Que tu es bon, que tu es bon. Tu nous donnes ta chair en nourriture. Ô mon Jésus, que tu es bon. De tout mon cœur, je veux t'aimer toujours. Que tu es bon, que tu es bon. Et pendant ces jours si douloureux, petite Marie-Carmen demandait souvent à sa mère, elle le fera encore dans les derniers moments. « Chante, maman, chante-moi ce chant si joli qu'on m'a chanté pour ma première communion. Que tu es bon, Jésus, que tu es bon. » Et sa mère le lui chantait. Ce fait à lui seul, est-ce que vous n'avez pas l'impression que c'est révélateur? Aussi révélateur que son acte d'offrande. Révélateur d'abord de sa ferveur, hein? Le jour de sa première communion, puis révélateur surtout de l'acte de foi hautement surnaturel et héroïque qui lui faisait voir dans ses souffrances même la manifestation de la bonté de Dieu. C'est très difficile à comprendre, mais quand on l'a compris, on l'a compris. Au creux de ses souffrances, Dieu la rejoint, l'aime, elle est sûre de son amour. Comme je faisais prier ma mère au moment de sa mort, « Maman, il faut dire à Dieu qu'on l'aime, même au creux de nos souffrances. » Et je lui priais, je faisais des prières, j'inventais des prières pour elle dans ce sens-là. « Chante-moi ce chant si joli, que tu es bon, Jésus, que tu es bon. » Voilà ce qu'elle disait. Et sa mère dit, « J'ai remarqué qu'elle en était toujours émue. » Marie-Carmen avait prédit plusieurs fois que la Vierge Marie viendrait la chercher le jour de sa fête, le 16 juillet. Mais ensuite, apprenant que sa tante Sophie se mariait ce jour-là, et comme elle ne voulait pas gâcher la fête, elle a annoncé qu'elle mourrait le lendemain. Tout le monde n'a pas écouté ce qu'elle disait. Le 17 arrive, finalement, le lendemain du mariage. Et sa mère, qui a dormi auprès d'elle, pense qu'elle va mieux, mais Marie-Carmen s'assoit sur son lit, ce qu'elle ne pouvait plus faire depuis longtemps. Puis elle lui dit, « Aujourd'hui, maman, je vais mourir, je m'en vais au ciel. » Sa mère lui répond que non. Mais l'avoue elle-même, je la voyais tellement recueillie que j'ai compris qu'elle s'en allait pour toujours. Elle parlait avec tant de conviction que j'ai appelé toute la famille. Nous entourions tous son petit lit. Elle me dit alors qu'elle voulait décharger sa conscience. Mais quel remords pouvait-elle avoir? Elle pensait avoir commis deux fautes. La première, en omettant ses prières dans les circonstances rapportées tout à l'heure. Puis la seconde, en n'aimant pas assez Marie P., son infirmière, qui la faisait beaucoup souffrir pendant les soins. Cette dernière pleurait et lui dit, « Mais Marie-Carmen, tu ne m'as jamais rien dit de désagréable et tu m'as laissé faire le nécessaire pour te soigner. » C'est à cause d'Épicure. Hein? Alors l'enfant l'embrassit en lui demandant pardon. Ensuite, elle a récité l'acte de contrition. Elle a demandé de nouveau à sa mère de lui chanter le chant de sa première communion, « Que tu es bon, Jésus, que tu es bon !» Et elle dit alors tout simplement, « Maman, je vais voir papa très bientôt. Tu veux que je lui dise quelque chose de ta part ?» Et comme je pleurais amèrement, écrit sa mère, elle m'a embrassé en souriant et elle m'a dit, « Ne t'inquiète pas, ma petite maman, je vais prier beaucoup pour toi. » Elle s'est entretenue avec Jésus, elle lui a parlé du berger, puis des brebis, comme une enfant. Elle parlait à Jésus comme ça. Sa mère croit qu'elle délire, mais la grand-mère, qui est très spirituelle, une vraie espagnole, quoi, « Non, prends soin. » Elle lui dit de si belles choses. Et vers 13 heures, la petite se recueille davantage. Alors sa grand-mère veut l'aider spirituellement, en lui suggérant des oraisons jaculatoires. Vous savez, des cris comme « Cœur sacré Jésus, j'ai confiance en vous ». C'est ça, des oraisons jaculatoires, comme des cris. Mais l'infirmière l'en empêche de peur qu'elle ne la distrait, parce que l'infirmière se voit qu'elle est dans un recueillement surnaturel. Un peu avant de mourir, regardant tout son entourage, elle conseille « aimez-vous les uns les autres ». Et Marie-Carmen s'assoit sur son lit. Elle entend des chants et une mélodie céleste. Ça peut sembler étrange. Et pourquoi ce serait pas vrai? Elle dit, « Maman, maman, tu n'entends pas ces chants? Tu n'entends pas comme c'est beau? » Alors elle demande à l'infirmière d'appeler sa grand-mère et lui demande, « Tu n'entends pas comme c'est beau, grand-maman? Comme ils chantent bien? Qui est-ce? » Alors, au début, bien, elle ne répond pas. Mais comme Marie-Carmen insiste, « Ce sont les anges, Marie-Carmen. » Alors, Marie-Carmen, toute contente, ajoute, « Oui, oui, ce sont les anges qui viennent me chercher. » Alors elle écarta les bras comme pour jouer à la ronde. Vous savez, danser à la ronde. Alors sa mère a écrit et raconte, elle tendait ses petits bras ouverts vers le ciel et semblait vouloir enlever quelque chose qui la gênait en disant, « Laissez-moi, laissez-moi m'en aller. » Et comme sa grand-mère lui demandait, « Où veux-tu aller, Marie-Carmen ?» Elle avait répondu avec ce sourire qui ne l'avait pas abandonné toute cette matinée, « Au ciel, grand-mère, j'y vais sans passer par le purgatoire parce que les médecins m'ont martyrisé. » Il semble que ce même jour, elle répétait la phrase « Je meurs martyr ». Et ce sera un martyr de charité en faveur de ceux pour qui elle offrait sa vie. Elle avait obtenu la conversion du président de la République, responsable de l'assassinat dans un sens de son père. Comme le médecin voulait encore la retenir sur terre, elle lui dit « Laissez-moi, docteur, laissez-moi partir maintenant. Vous ne voyez pas que la Sainte Vierge vient me chercher avec les anges ?» Puis, à la stupéfaction de tous, elle a joint les mains, puis elle a déclaré « Jésus, Marie, Joseph, assistez-moi dans ma dernière agonie. Jésus, Marie, Joseph, faites que je meure en votre sainte compagnie. » Tout le monde a été surpris, parce que personne ne lui avait parlé de la mort, ni de l'agonie, ni de rien de ce genre. Et ce sont ses dernières paroles. Se soulevant légèrement comme pour prendre quelque chose, elle retomba sur l'oreiller et exhala le dernier soupir sans agonie, sans aucune contraction du visage. Il était 3 heures de l'après-midi. Au moment de sa mort, Marie-Carmen, 9 ans, était brisée et déformée physiquement par la maladie. Mais soudain, un de ses oncles, qui était au pied du lit, la contemplant, s'écria, « Hey, regardez, regardez, comme elle devient belle !» Alors, tout le monde s'est extasié. Son infirmière, d'ailleurs, raconte, « Avant de mourir, elle était comme rigide et sentait même mauvais. Elle avait une septicémie et une forte diarrhée. Nous avions beau tâcher de la maintenir propre, c'était impossible. Quand elle est morte, il est arrivé une chose impressionnante. Elle a changé complètement, et un doux parfum émanait d'elle, complètement différent de celui des fleurs qui l'entouraient. La rigidité avait disparu. C'est ce qu'on appelle mourir en odeur de sainteté, de façon très concrète. L'expression fait rire bien des gens. Moi, je crois que ça, c'est vrai. Peut-être je passerai pour un fou, mais ça ne me dérange pas. Elle était tellement transfigurée, cette Marie-Carmen, que le médecin légiste a refusé au début de certifier le décès. Ce médecin disait que, dans ces circonstances, la petite était certainement morte, mais que ce corps n'était pas un cadavre. Et Marie-Carmen a été revêtue de la robe blanche de la première communion. Elle a été déposée parmi les lys du mariage de sa tante. Il faisait extrêmement chaud ce 17 juillet 1939. Une chose frappante est arrivée. La petite a été placée, rapporte le docteur Blanco Soler, sur un lit de fleurs. Le soir, j'ai insisté pour qu'on les enlève et qu'on les mette dans l'eau afin de conserver leur fraîcheur jusqu'à l'enterrement. Sa mère en a enlevé beaucoup parce qu'il y en avait une quantité, mais on a laissé un bon nombre autour de Marie-Carmen, qui avait pris à sa mort une expression vraiment ineffable. Et le lendemain matin, toutes les fleurs qui avaient passé la nuit auprès d'elle étaient couvertes d'une rosée mystérieuse qui leur avait conservé l'aspect de fleurs fraîchement coupées, tandis que celles que nous avions voulu garder s'étaient fanées complètement. C'est le rapport du médecin. Le temps passait, parce qu'il n'était pas facile de célébrer l'enterrement au moment où Madrid fêtait pour la première fois l'anniversaire du soulèvement national. 48 heures se sont écoulées, et enfin, le 19 juillet, on l'enterrait, écoutez bien, sans rigidité cadavérique, dit son médecin, et avec des couleurs, un aspect merveilleux, avec une figure bien rose parmi les lys frais. Marie-Carmen était un jour au lit à cause d'un rhume quand elle a reçu la visite de cet ami de sa grand-mère, ex-carmélite de Lisieux, avec qui elle s'entretenait de choses mystiques, hein, vous vous en souvenez. En parlant de petites filles qui avaient été des saintes, Marie-Carmen a demandé à cette ex-religieuse, « C'est vrai que moi aussi, je peux être une sainte ?»« Bien sûr que oui, Marie-Carmen. Si tu es sage comme elle, Si tu obéis, si tu fais des sacrifices, si tu te réjouis de tout, si tu es charitable, si tu aimes beaucoup, beaucoup le bon Dieu. Ensuite, quand tu mourras, tu iras au ciel avec Jésus et la Sainte Vierge, tandis qu'ici, sur la terre, on fera des images de toi. On fera des images de toi. Quelle est l'image la plus caractéristique de Marie-Carmen? Quelle est l'image la plus caractéristique de Marie-Carmen? Eh bien, pour répondre à cette question, je vais vous faire tout à l'heure une synthèse de sa spiritualité. Je reviens donc à Marie-Carmen González Valerio, mais auparavant, je voudrais vous dire que vous venez d'entendre un motet de l'école espagnole, puisque nous parlons une petite espagnole, et c'était « O Domine Jesu Christi ». C'est sur un disque intitulé « Gloria Dei ». Et l'ensemble était dirigé par Elizabeth Patterson. Alors, il ne semble pas facile de réduire la spiritualité de cet enfant à un seul élément. Je pense qu'il faut en mettre plusieurs en relief. D'abord, je vous l'ai dit, sa pureté. Bien oui, c'est toujours quelque chose de valable. Je le vois chez mon petit-fils, c'est très beau. C'est très beau quand l'enfant est normal, il est normal et c'est très beau. Sa charité aussi à cette petite fille. Une grande charité, un grand désir d'aider les pauvres et de donner ce qu'elle possédait. Son abandon à Dieu, je vous l'ai signalé, comment il était abandonné complètement. J'aurais pu vous raconter bien d'autres choses sur son abandon dans sa maladie, c'est fantastique. Avec aussi, si elle s'abandonnait à Dieu, elle s'abandonnait aussi à la volonté de Dieu sur elle. Le désir de sainteté, la réponse à l'amour de Dieu. Parce qu'elle avait une grande amitié avec Jésus. Elle avait aussi cette qualité très spéciale. C'est très spécial, j'ai beaucoup de difficultés à dire ça, mais c'est vrai. Une espèce de qualité de victime avec une coloration spéciale très importante, là, qu'on pourrait dire de martyr de charité. Parce que, tu sais, nourri de son amour, puis d'un amour pour l'Eucharistie, qui vivifie tout le reste. C'est l'amour qui la soulève, comme Thérèse d'Enfant Jésus. Alors, on peut retenir les trois principaux points, pureté, une condition de victime d'amour, puis l'amour envers l'Eucharistie. Les deux premiers traits, il me suffit de se rappeler de la scène de l'enfance de Saint-Maximilien Kolbe que je vous ai déjà racontée. J'ai consacré une émission à Maximilien Kolbe, ce saint polonais qui a donné sa vie. Et vous vous souvenez que Notre-Dame lui était apparue, lui présentant deux couronnes, l'une blanche, l'autre rouge. Puis elle lui avait dit de choisir, et nous savons qu'il les a acceptées toutes les deux. Puis il est devenu victime. Toutes deux sont aussi la gloire de Marie-Carmen. De toute façon, c'est pas par hasard que sur la dernière image qu'on pourrait dire que Dieu nous a laissée de Marie-Carmen, elle porte sa robe de première communion, entourée des lys qui ont conservé merveilleusement leur fraîcheur. C'est comme ça qu'elle a été ensevelie. Si bien que l'image de sa mort constitue, on pourrait dire, un message complet pour tous les enfants. Pour tous les enfants? Pour moi aussi, je suis peut-être un enfant, mais je crois que c'est bon pour tous les adultes du monde. En effet, je ne saurais trop redire et répéter que l'Eucharistie, qui est, comme on dit, le pain des anges, et le vin qui engendre la pureté, le désir de se donner, l'amour. Parce que le vin, je le répète encore, je vous l'ai dit très souvent, c'est le précieux sang. C'est l'âme de Jésus-Christ, c'est son amour qui se donne à nous, sous cette forme. Que Dieu nous accorde donc de voir un jour Marie-Carmen vêtue de blanc et entourée de lys, dans la gloire du Bernin à Rome, au fond de la basilique, là, et vénérée par toute l'Église. Ce sera peut-être, on le verra un jour. Les restes mortels de Marie-Carmen ont d'abord été déposés au cimetière de Saint-Isidore, dont je vous ai parlé aussi, Saint-Isidore, un jour, grand saint espagnol, au cimetière de Saint-Isidore à Madrid. Et puis, ils sont transférés en 1940, l'année suivante, au caveau de sa famille, à La Coruña. d'où son père était originaire et où il avait été enterré. Lui qui est mort, pour ainsi dire martyr. Le 22 décembre 1979, il y a moins de 20 ans, ils sont transférés de nouveau, et cette fois, à la chapelle du monastère du Sacré-Cœur et de la Vierge du Carmel. C'est d'ailleurs le nom complet de la petite enfant, hein? Bien oui. Ce sont des carmélites déchaussés qui sont là. Et ce monastère, fondé en 1958, se trouve à Madrid, en fait à Aravaca. Et c'est là qu'une de ces qui est carmélite. Alors on peut visiter le tombeau de cette petite sainte. Enfin, elle est vénérable. La mort a été pour Marie-Carmen l'éclair qui a illuminé soudain toute une vie tellement brève. Hein. C'est son frère Julio, ou Julio, ou Jules, si vous voulez, témoigne. Il dit, « Je pense que cette renommée de sainteté a dû commencer peu de temps après sa mort, et particulièrement parmi les personnes qui l'ont vu mourir. Et j'insiste sur le fait que cette renommée s'est propagée, mais l'idée d'entreprendre un procès de béatification n'est pas venue de sa famille, c'est pas venu de sa mère. » Sa mère n'y était même pas favorable. Elle disait d'ailleurs, c'est Dieu qui doit prendre l'initiative. Je ne veux rien voir là-dedans. Elle ne voulait rien faire. Beaucoup de personnes étrangères à la famille, des prêtres, l'y ont encouragé. En peu de temps, des gens ont écrit plusieurs biographies de Marie-Carmen. Et finalement, le procès diocésain s'est ouvert à Madrid le 11 juillet 1961. Et la mère de Marie-Carmen, qui est morte en décembre de la même année, 1961, sa grand-mère, ses frères et sœurs, puis les personnes de son entourage y assistaient. Et à ce procès diocésain. Ce procès terminé le 16 avril 1983, donc au bout de 22 ans, il était remis à Rome le 10 mai et approuvé par la Congrégation pour les causes des saints en 1985. Et en 1990, on a présenté à la même congrégation ce qu'on appelle la positio. C'est des documents très sérieux exposant ses vertus héroïques. Je vous en ai donné un aperçu très minime. Il faut tout lire. Hein. Alors, on peut demander au Seigneur la prompte béatification de Marie-Carmen. Et dans ce but, on peut peut-être réciter une prière. Elle a été rédigée par la carmélite déchaussée du Carmel de Tanger, maintenant décédée, dont je vous ai parlé, qui avait prophétisé à Marie-Carmen qu'on ferait des images d'elle dans ce monde. Alors, c'est une prière un peu conventionnelle, mais elle est très belle. Il faut voir la photo, la dernière photo de Marie-Carmen. Quel bel enfant au grégaire extrêmement intelligent. Une fille formidable. Alors, c'est une prière pour usage privé, mais je l'utilise quand même. Jésus, vous qui avez dit, laissez venir à moi les petits-enfants, et qu'avez voulu, vous, la fleur des champs et le lys de la vallée, mettre en l'âme de Marie-Carmen, la vertu de l'innocence et le désir de monter au ciel avant la souillure du péché. Pour cet héroïque amour avec lequel, au milieu des plus grandes souffrances, elle a maintenu son généreux sacrifice, nous vous supplions, par sa prière, de susciter dans les foyers chrétiens une légion d'âmes pures qui suivent ses traces. Et si c'est votre volonté, de la glorifier sur terre, de nous accorder les grâces que nous demandons par son intercession. Alors, il existe plusieurs biographies de Marie-Carmen. Elles sont en espagnol. Il y en a une en français. Vie de la servante de Dieu, Marie-Carmen González Valerio y Sáenz de Heredia. C'est tout un nom de famille. Quand on prend le nom de famille de son père, González Valerio, puis le nom de sa mère, c'est par une carmélite déchaussée à Madrid, 1990, c'est la deuxième édition. Puis il y a eu une petite brochure aussi, la vénérable Marie-Carmen González Valerio, un enfant vers la gloire des autels, par Gabriel Maria Verde. On trouve ça chez les carmélites déchaussées de Madrid, et c'est distribué par les carmélites de Dijon, je crois. Mais c'est surtout à Madrid qu'on peut le trouver. C'est pas facile.